Le Monde selon Hubert Védrine.
Bonjour Hubert Védrine. Bonjour. Au-delà de l'émotion, il y a aussi des dossiers qui vous intéressent sur le long terme, notamment celui de l'Iran. Vous vouliez tout d'abord réagir sur la question iranienne.
Oui, je suis tout à fait d'accord pour parler immigration, bien sûr. Mais je voulais dire ici simplement pour que un des événements les plus importants de l'été et qui a le plus d'impact sur la situation géopolitique, c'est l'accord qui a été finalement signé le 14 juillet entre les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, dont donc la France et l'Allemagne et le gouvernement iranien en face. Un accord qui fait que l'Iran renonce en réalité à tout ce qui lui permettait d'aller vers une énergie nucléaire à usage militaire, avec des contrôles extrêmement précis, très intrusifs, ce qui entraîne la possibilité de lever les sanctions par étapes quand ça aurait été contrôlé. Alors il y a une bataille d'arrière-garde énorme. Les républicains aux États-Unis veulent torpiller l'accord. Netanyahou en Israël veut le torpiller. Il utilise son énorme influence sur le Congrès américain. Les Saoudiens sont également contre. Et il y a en Iran des durs, des pasdaran qui voudraient que ça échoue. Mais mon pronostic ici, qu'il y aura des batailles sans fin, y compris à chaque étape de lever des sanctions, mais qu'au total, l'accord s'appliquera, ce sera un leg énorme de la présidence Obama, et que ça reconfigure énormément l'ensemble de la région, mais même en partie la relation islam-occident. Voilà, donc c'est depuis...
Cette reconfiguration, elle se traduirait comment selon vous, Hubert Védrine ?
Ça favorise le retour de l'Iran comme étant une puissance importante. C'est d'ailleurs de ça dont les Saoudiens avaient peur. Ils disaient qu'ils avaient peur de la bombe iranienne. En fait, ils avaient peur du retour de l'Iran. Mais le retour de l'Iran va avoir lieu d'une façon ou d'une autre. Pas très vite, mais quand même. L'Iran est un pays plus moderne que les pays voisins, en fait, sous le couvercle des ayatollahs. Et donc on en verra vite l'impact, et même ceux qui sont le plus hostiles aujourd'hui, comme le gouvernement israélien, les Saoudiens et quelques autres, devront s'adapter.
Peut-être pourrait-on imaginer un axe avec l'Iran contre Daesh ?
C'est trop dire axe, mais oui, des coopérations, des collaborations de facto contre Daesh, mais Daesh est à peu près endigué, mais pour éradiquer Daesh, il faudrait une énorme coalition militaire au sol, on en est loin. Et après un accord politique de fond sur comment on reconstruit l'Irak, si c'est encore possible, comment est-ce qu'on reconstruit la Syrie, si c'est encore possible, c'est un autre sujet.
Alors pour le moment, puisqu'il est évidemment impossible d'imaginer la disparition de Daesh à brève échéance, on a ce drame des réfugiés qui est sous nos yeux aujourd'hui. Le géopoliticien que vous êtes, comment réagit-il face à ce drame ?
Je pense qu'il est possible de convaincre les opinions européennes, même les plus inquiètes, même les plus réticentes, même les gens d'Europe de l'Est qui disent ouvertement que la société multiculturelle qui s'est installée en Europe de l'Ouest est un fiasco total, dangereux. Ils disent ça. Je pense que compte tenu de l'ampleur du drame, des images abominables qu'on voit tous les jours, la dernière étant celle de ce petit garçon, je pense que si on montre aux opinions publiques et aux électeurs en Europe que la question est gérée, que c'est pas simplement une question de valeur ou de principe un peu abstrait, mais que c'est géré. Géré, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on distingue les demandeurs d'asile des demandeurs de l'immigration économique. C'est pas la même chose, clairement.
Pourquoi ça n'est pas la même chose ? Parce que lorsqu'on est chassé de son pays, parce qu'on...
Ça, c'est la demande d'asile, ça. Mais pas la misère. Donc ceux qui sont par générosité, qu'on peut comprendre, hein, qui disent qu'au fond, on peut donner l'asile à des gens qui viennent simplement pour travailler parce qu'ils n'ont pas de job, ils vont tuer le droit d'asile. Ce maximalisme charitable, à mon avis, est extrêmement dangereux. Le droit d'asile, c'est précis, il y a des textes, il y a des lois qui font honneur d'ailleurs à l'Europe. Ça ne remonte pas à la construction européenne, hein, ça remonte à l'asile dans les églises, au Moyen-Âge. Donc le droit d'asile doit être sanctuarisé, ça doit être rigoureux. Et quand Mme Merkel, puis les autres, disent que les gens des Balkans occidentaux n'ont pas droit à l'asile en tant que tel, je crois qu'elle a raison de clarifier. Il faut que les pays qui gèrent Schengen, donc la frontière extérieure, soient capables de la gérer. De la gérer, c'est pas le cas de tous. Si on faisait un test là-dessus, on serait obligé de sortir deux ou trois pays de Schengen. Si on dit ça, au bout du compte, on peut dire, genre, compte tenu de l'urgence et de l'abomination, on peut et on doit accueillir plus de gens qui ont besoin de l'asile parce qu'ils sont en danger, parce qu'ils sont persécutés, parce que leur vie, pour des tas de raisons, de guerre, de race, de religion, de ceci, cela, de ça. Donc, mais à condition de prendre l'ensemble. Or, dans le débat public, vous en parliez juste avant que j'arrive, on voit que des gens prennent position uniquement sous un angle sécuritaire fermeture, uniquement sous un angle généreux, valeur, etc. Ça ne marche pas. Il faut regrouper l'ensemble des choses. présenter. Alors ça, c'est l'asile. Et puis par ailleurs, mais c'est pas moi le sujet d'aujourd'hui, je pense qu'il faudra co-gérer les mouvements migratoires et économiques entre les pays de départ, de transit et d'arrivée.
On va continuer à parler de cela durant les matins. On va parler du silence des intellectuels par rapport à cette question des migrants et de leur influence ou de leur absence d'influence vis-à-vis des politiques. Restez avec nous. Hubert Védrine, votre parole sera précieuse à ce sujet.